Alors, je suis avec David Bull et avec Guillaume Mathias. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors, expliquez-nous un petit peu qui vous êtes.
Ah bon, on va commencer par David, je pense.
Ah bah écoute, on commence par moi. Donc, écoute, je suis donc auteur et président de l'association et maison d'édition Phylactère, qui est présente aujourd'hui à ce festival. Donc du coup, un grand merci d'ailleurs aux organisateurs de nous avoir invités pour présenter nos ouvrages.
Et pour le champagne aussi. Hein.
Et pour le champagne. Donc auteur de bande dessinée sur un ouvrage...
Bien sûr, okay. Évidemment.
Auteur de bande dessinée sur un ouvrage donc, consacré à la Grande Guerre, en fait, tranché sur le vif. Okay. Qui était un nouveau. J'en parlerai peut-être un petit peu après, mais je vais laisser la parole à Guillaume.
Oui, alors t'as oublié de préciser que ton nom, ce n'est pas un pseudonyme.
C'est pas un pseudonyme, non, c'est mon vrai
d'accord,
nom.
D'accord, vraiment oui, David Bull.
Et David Bull, si vous voulez.
C'est quoi les initiales ?
Il y avait une prédestination.
Je pense. Ouais.
Ouais. C'est uniquement pour ça qu'on l'a élu comme président de l'association Phylactère. Hein. C'est le seul critère.
Le nom.
Voilà. Alors moi c'est Guillaume Mathias, donc moi je suis auteur, dessinateur, scénariste, coloriste d'une bande dessinée qui s'appelle Bertrand Cœur-Torient et Zone 57. Donc c'est une histoire d'invasion extraterrestre dans la ville de Metz, une comédie de science-fiction qui dit
dans la ville de Metz.
C'est okay. Oui, tout est vrai, j'ai fait mes propres recherches. Donc c'est un peu comme dans le collectif on aime bien tout ce qui est un peu comics américain. Donc là j'ai essayé de faire une BD à suite en feuilleton, un peu comme l'américaine, sauf que là c'est plutôt à la Lorraine. Et maintenant que les séries est terminée, on a tout regroupé en deux albums cartonnés. Donc voilà, et puis donc ça c'est ma BD personnelle que je fais avec d'autres personnes comme Carlos Rodrigo ou Céline Labrier qui m'aident pour le scénario et la couleur respectivement. Et aussi je participe à d'autres projets collectifs de l'association Phylactère, dont VHB. Dont David justement est co-créateur d'ailleurs.
Donc dans le coup effectivement dans ces ouvrages collectifs on peut peut-être en parler un petit peu, c'est donc l'occasion pour des jeunes auteurs qui démarrent un peu dans la bande dessinée, auteurs amateurs hein, j'entends, et puis également des fois des collaborations avec des auteurs professionnels comme par exemple aujourd'hui Benoît Blary qui est présent au festival, qui nous a fait l'immense honneur de nous fournir des images
qui a fait la couverture
etc. Donc c'est aussi des collaborations vous voyez à travers donc, ces illustrés, on appelle ça les illustrés. Donc il y a eu un premier ouvrage sur Lovecraft,
L'innommable illustré.
Il y a eu ensuite l'impitoyable illustré, plutôt sur le western. Western. Voilà. Et notre dernier nouveau-né, là, qui date de septembre 2025, qui est consacré à la magie, donc l'abracadabran illustré qui regroupe. À chaque fois, l'ouvrage augmente en taille. Voilà.
Vous êtes tous les trois de Metz ?
Alors, moi, je suis de Metz, mais...
Aussi pour moi, et voilà. Puis Florent, plutôt de la région du Toulois, de Toul.
Donc, on est vraiment sur toute la Lorraine, en fait.
D'accord, de côté est de la France. Voilà. Quand vous parlez d'extraterrestres, on en parle de plus en plus en ce moment dans l'actualité, en plus, avec les grandes révélations que doivent nous faire l'Amérique.
Ah oui, on les
voilà.
Attend.
Donc, du coup, vous êtes vraiment en plein dans l'actualité.
Toujours.
J'imagine que dans la BD, on a peut-être des références au GEPAN.
Non, pas le GEPAN, parce qu'en fait, les extraterrestres sont vraiment existants et en fait, ils pullulent dans la ville de Metz.
D'accord.
Donc, c'est plus du tout un mystère. On n'a plus besoin d'enquêter là-dessus. Ils sont là et justement, l'enjeu de la bande dessinée de l'histoire, c'est de les en déloger. Et en fait, quoi de mieux que de transformer ça après en émission de télé-réalité. Donc en fait, c'est un prétexte surtout, toujours sous gage de comédie, hein, mais c'est quand même un prétexte pour se moquer, gratiner un peu, et pasticher et faire une petite satire sur tout ce qui est les chaînes d'infos en continu et la télé-réalité.
D'accord, alors on ne va pas plagier Orson Welles avec la célèbre émission radiophonique qui avait mis la pagaille là-dessus. On rassure les auditeurs, les auditrices. De toute façon, on est à Chalon et ça se passe à Metz.
Voilà, donc, voilà. Tout va bien.
Voilà. Dites-nous un petit peu comment vous êtes arrivé à la BD, depuis combien de temps ? Est-ce que vous avez trempé dedans étant petit ?
Alors, je pense, oui, la plupart des auteurs de bande dessinée, c'est un peu ça. Après, on a tous des parcours un peu différents, mais globalement, oui, on a eu des BD dans les mains à l'âge
toujours.
Toujours. Hein. Et après, les parcours sont particuliers. Mais moi, c'est plutôt la lumière des comics. J'ai commencé avec les comics dans les années 80. D'autres, plus récemment, ça sera les mangas. Mais bon, voilà, c'est les générations qui veulent ça.
Mm-hmm.
Et alors, les Batman, les Marvel, les Strange, Titan, Nova.
Super-héros,
voilà, toute cette vague qui aujourd'hui... à la télé, au cinéma, avec.
C'est intergénérationnel en plus.
Oui, ouais, je pense. Puis ça se renouvelle en permanence. Donc à chaque fois, il y a une espèce de reboot tout le temps des super-héros. Donc on en a en permanence. Quoi. Donc c'est assez intéressant.
Par contre, le lectorat ne lui se renouvelle pas assez. Par
ça
contre.
Renouvelle pas assez, ouais,
ça, il faut le dire.
C'est-à-dire, la jeunesse n'est plus
ne
assez
lit pas autant. En tout cas, pour les comics, ça reste une niche en France.
Ouais. Ouais.
Alors que dans les années 80, les revues Strange, etc., ça se vendait en millions. Quoi.
C'est vrai. Aujourd'hui, c'est plus un lectorat de manga. Mais après, c'est pas grave.
sûr, oui, ça, ça s'est déporté sur un autre style.
Voilà, c'est de la BD aussi, qu'on appelle ça manga franco-belge ou comics, ça reste de la bande dessinée.
Ça reste de la BD, en effet. Voilà,
est-ce que c'est seulement le fait que les mangas sont arrivés que les lecteurs se soient déportés?
Non.
Un effet de mode, c'est un effet de film aussi.
C'est multifactoriel, oui. Je pense qu'en effet, par exemple, le fait que beaucoup de mangas soient adaptés à la télévision, ça a joué énormément en termes de vitrine.
Et nous, on a grandi avec Goldorak, on a grandi aussi des animés, sauf qu'ils n'étaient pas en papier, sauf que s'ils étaient en papier, on les aurait achetés.
Exactement, ils sont arrivés assez tardivement finalement en France en papier, à la fin des années 80, au milieu des années 90, avec Glénat notamment.
Mais sous forme cartonnée, c'est-à-dire qu'on a voulu donner dans un premier temps.
Tu parles d'Akira.
Alors, les premiers mangas arrivés sous forme cartonnée, vous voulez présenter ça de manière de plus, c'est devenu un peu.
Akira donc.
Voilà.
Et après.
Et la lecture à la française.
Voilà.
Oui, avec le sens de lecture européen, enfin en tout cas occidental. Oui, c'est multifactoriel, mais effectivement, comme dit David, ça reste de la bande dessinée, donc peu importe en fait. Oui.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'en France, il y ait cet engouement qui revienne ? Il nous refaut une Dorothée Bis ?
Non, je pense qu'il y a déjà, il y a quand même. En fait, on parlait du renouvellement de par rapport aux comics, en fait, qui se fait peu, peut-être un peu du franco-belge. Non, c'est simplement, je pense que c'est, peut-être des effets de mode au niveau des styles graphiques. Non, surtout, en fait, ce qu'il faut, pourquoi le manga ça fonctionne plus en réalité, c'est peut-être tout simplement parce que c'est moins cher. Les mangas, c'est un petit format, c'est en noir et blanc, ça coûte moins cher à produire, du coup, ça coûte moins cher à
le, vendre, la qualité papier aussi.
Elle est quand même plutôt bien, mais c'est vrai que c'est pas le même papier glacé. À partir du moment où c'est en noir et blanc, forcément, de fait, c'est moins cher. Et je pense que, malgré tout, c'est peut-être un argument qu'on met pas assez en avant, mais je pense que si le manga fonctionne aussi bien, c'est peut-être aussi parce que pour que les jeunes puissent s'en saisir, il faut que ce soit pas cher.
Après, il y a les grosses collections, on n'est pas dans des petites collections comme où tu as 20 ou 30 albums. Là, tu es sur des fois des collections comme One Piece. Alors, je prends l'exemple de One Piece.
Ouais, c'est sûr.
On est sur 100 et quelques albums. Donc là, il faut quand même un financement.
Oui, mais. Ça se fait sur des années et des années. Tu l'as commencé t'as le temps de rentrer les albums de ta
grand-parents qui commençaient les collections de Tintin ou les Astérix, on a dû acheter un bouquin au Champ du Coin ou au Cora du Coin, mais c'est vrai que ce n'est pas les mêmes budgets. Quoi.
Alors, pour votre part, vous vous adressez à un public à quel âge, justement ?
Alors, ça va être soit des publics de niche, on va dire, parce qu'il y a des thématiques qu'on ne peut pas vendre aux enfants très jeunes, 10 ans. Après, c'est plutôt ados plus, aux jeunes adultes. On a quelques ouvrages tout public, mais comme nos auteurs, on est libre en termes de production, enfin, on fait ce qu'on veut.
Oui.
C'est vrai qu'on sait un peu, des fois.
On est nos propres éditeurs, donc on fait ce qu'on veut.
On n'a pas d'obligation dans la BD d'avoir ce qu'on appelle le PEGO dans les jeux, l'âge légal qui est.
Alors, faut signaler que tel type de lecture.
Public averti. On précise ça. Oui.
Et on le redit bien sûr aux gens qui mettent ça dans les mains des enfants.
On le vend sur les stands en effet quand c'est pas approprié. Moi par exemple, ma bande dessinée, moi je pense qu'à partir de 10 ans c'est lisible, mais le mieux c'est à partir de 12 ans en fait.
D'accord.
Pas parce qu'il y a des gros mots ou un excès de violence.
C'est les clés de la compréhension.
Exactement. Je me dis là, les sujets qui vont être évoqués, ça va peut-être leur passer au-dessus de la tête. Peut-être. Il y a des fois, il y a des gamins qui sont très matures pour leur âge. Mais c'est surtout par rapport à ça. Hein, donc,
Bien sûr. Qui n'a jamais relu des Astérix, justement, des années plus tard, en n'ayant pas trop compris certaines références avant.
C'est vrai que des choses qui sont là. Nous, on n'est pas dans ce schéma-là comme Goscinny, qui prévoyait peut-être de faire relire les mêmes BD à des enfants, puis des ados, des adultes. On est dans des thèmes
dans l'immédiat.
Qui nous intéressent.
Oui.
Alors, est-ce qu'on peut retrouver donc déjà les BD?
Alors, on peut les retrouver donc sur le site
philactère-bd.fr. Alors, Philactère, il faut bien préciser l'orthographe, parce que les gens ne savent pas.
Philactères.
C'est ça, c'est au pluriel.
Qui est la bulle en bande dessinée.
Le nom savant de la bulle, on va dire.
Le nom technique de la bulle.
Donc ça, c'est le site internet.
Voilà.
Vous avez peut-être des réseaux sociaux ensuite.
Oui, on est sur Facebook et on est sur Instagram.
Alors, à quel nom? Toujours le même nom?
Philactère, le même nom.
D'accord. Et donc, pour les lecteurs, les auditeurs, les auditrices, les commandes se font en vitrine peut-être sur le site?
Voilà, on a un catalogue en ligne où on peut commander, mettre dans le panier, faire envoyer par la poste, etc. Tous les moyens classiques d'envoi.
Et si vous passez en Lorraine, vous êtes en visite, il y a quelques librairies qui nous vendent en dépôt vente, Isler BD à Metz.
D'accord.
Il y a différents festivals qui ont eu aussi. Il y a Villers.
Alors le prochain, justement.
Alors, je sais pas. On vient de Saint-Malo déjà.
Oui, on est revenu de Saint-Malo. Ouais. Là, c'est vrai qu'on va arriver sur la période hivernale.
Vous étiez prévu Angoulême ou
non? Non, on avait déjà décidé de ne pas y retourner. Déjà, on avait décidé de ne pas y retourner cette année et de ne pas y retourner l'année prochaine. Donc pour nous, ça ne change rien.
D'accord.
Il y a raison.
Voilà, tout à fait.
Et comment vous avez été contacté alors, du coup
Chalon
ouais, c'est moi qui ai pris contact un petit peu avec Eric.
On se connaît un peu.
On s'était croisés aussi dans quelques festivals. Et puis je dis, bon, c'est la première fois qu'on le faisait. Je dis, bon, on y va, allez, c'est parti, j'envoie un petit mail. Et puis ça s'est fait comme ça. Hein.
D'accord.
Puis c'était l'occasion de faire découvrir aussi nos BD dans la région.
C'est vrai qu'on ne vient pas souvent en Champagne.
Vous connaissiez Chalon-Champagne?
On avait déjà fait
le Vitry-le-François.
Oui,
il y a longtemps.
La librairie, la CDI peut-être, non?
Alors, je me rappelle plus.
Il y a un festival, oui, exact.
Voilà. Mais c'était en octobre, courant octobre,
ça,
je crois.
Ça bouge un peu. Et donc, voilà, tous les petits festivals de région autour de Nancy, Metz.
Oui, on fait souvent le Grand Est, on fait beaucoup le Grand Est, mais principalement la Lorraine, évidemment.
D'accord.
Mais effectivement, ça nous arrive de nous déplacer à Lille, à Paris, à Saint-Malo, anciennement Angoulême, et puis des fois à Lyon.
À Lyon aussi.
D'accord. Dès qu'on nous invite quelque part, en général, on vient. Hein.
L'occasion de faire découvrir la BD Lorraine.
Hein. Exactement.
D'accord. Bon, l'appel est lancé, en tout cas. Hein, si on nous écoute aussi pour un festival prochain, on vous contacte directement. Merci beaucoup.
Merci à votre accueil.